Did you live on a farm? Did you live in the city? Did you live in the country? And that's it for lesson number 52 of English USA. Et voilà qui termine cette leçon numéro 52 d'English USA. C'était une révision de beaucoup d'expressions connues et moins bien connues. On continuera ainsi. Pratiquez chez vous ou entre amis. Until next time, goodbye!
VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir. Lutte contre Boko Haram. À l'issue de 3 jours de discussion à Yaoundé, des représentants du Tchad, du Niger, du Nigeria, du Cameroun et du Bénin se sont entendus pour mobiliser 8 750 hommes dans la force multinationale de lutte contre les extrémistes. Les représentants de ces pays ont précisé avoir besoin de 4 millions de dollars de toute urgence pour déployer la force le mois prochain. Les experts ont par ailleurs entériné la décision d'installer le quartier général de la force à N'Djamena. Au Burkina Faso, des milliers de personnes se sont rassemblées ce matin à Ouagadougou pour exiger la dissolution de la garde présidentielle ayant provoqué une crise politique en réclamant la démission du Premier ministre, indique l'AFP. Le meeting s'est tenu sur la place de la Révolution. Les manifestants réclamaient la dissolution du régiment de sécurité présidentiel, estimant qu'il n'a plus sa raison d'être depuis la chute de Blaise Compaoré. La commission électorale du Nigeria a été saisie d'une demande de report de 6 semaines des élections présidentielles et parlementaires prévues le 14 février, ont affirmé des élus ce samedi à Abuja, indique l'AFP. La requête a été faite par le conseiller national à la sécurité du Nigeria, Sambo Dasuki, ont déclaré des élus à l'issue d'une réunion. En raison de l'engagement de l'armée dans des opérations prioritaires dans le nord-est du pays contre Boko Haram, il ne lui sera pas possible d'assurer la sécurité adéquate des élections, a dit M. Dasuki. Un député kényan a été abattu ce matin à Nairobi avec ses 2 gardes du corps et son chauffeur. George Muchai du parti KBT revenait d'une réunion de famille quand des hommes armés ont attaqué sa voiture. Le président kényan Uhuru Kenyatta s'est dit profondément choqué et attristé par les meurtres, ajoutant que la police devrait mobiliser toutes les ressources pour s'assurer que les tueurs soient rapidement appréhendés. Le leader de l'opposition Raila Odinga a dénoncé l'assassinat, disant qu'il faisait partie d'un ensemble de violences politiques et d'insécurité au Kenya. L'écrivain sud-africain André Brink, engagé contre l'apartheid, est décédé la nuit dernière à l'âge de 79 ans. Connu mondialement pour son best-seller paru en 1979, Une saison blanche et sèche, il était membre d'un mouvement littéraire anti-apartheid dans les années 60. Il est décédé à bord d'un avion en provenance d'Europe après avoir été fait docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Et l'écrivaine algérienne Assia Djebbar, membre de l'Académie française, s'est éteinte vendredi à Paris à l'âge de 78 ans, indique l'AFP. La romancière décédée dans un hôpital parisien sera enterrée, selon ses vœux, dans son village natal de Tcherchel, à l'ouest d'Alger, selon la radio publique algérienne.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Les États-Unis veulent une solution pacifique en Ukraine, a déclaré le vice-président américain Joe Biden, ajoutant toutefois que Washington aidera Kiev à se défendre contre la Russie s'il le faut. Dans un discours ce samedi lors d'une conférence internationale de sécurité à Munich, M. Biden a dit que le président russe Vladimir Poutine a maintes fois promis de travailler pour la paix alors qu'il envoyait des troupes, des chars et des armes dans l'est de l'Ukraine. En Irak, au moins 34 personnes et des dizaines d'autres ont été blessées dans une série d'attentats à Bagdad, ont indiqué des responsables de la sécurité. Par ailleurs, les restes des corps d'au moins 16 hommes yazidis, selon les autorités, ont été trouvés dans un charnier dans le nord de l'Irak. Raids aériens jordaniens en Syrie contre des cibles du groupe État islamique pour une troisième journée consécutive ce samedi. L'annonce des militants disant qu'une frappe aérienne jordanienne aurait tué un otage américain n'a pas été confirmée. La Jordanie a lancé des raids pour venger le meurtre d'un pilote jordanien capturé en décembre par les islamistes armés. Et les six pays du Conseil de coopération du Golfe dirigés par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont dénoncé la prise de contrôle du Yémen par les rebelles chiites comme un coup d'État. Par ailleurs, au moins trois personnes ont été blessées dans l'explosion d'une bombe ce samedi devant le palais présidentiel à Sanaa. L'attaque est survenue alors que des milliers de personnes manifestaient dans plusieurs villes yéménites, y compris la capitale, pour protester contre cette prise de contrôle.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et maintenant, un message international du gouvernement des États-Unis.
Le gouvernement américain offre des récompenses pour toute information permettant de localiser Jihad Serwan Mostafa et Omar Shafiq Amami. Ces deux citoyens américains sont liés à Al-Shabaab, un groupe terroriste basé en Somalie. Jihad Serwan Mostafa, également connu sous le nom de Ahmad Guerry, est émirat noir, est né dans le Wisconsin. Il a formé et dirigé les combattants liés à Al-Shabaab. Mostafa, à la trentaine, mesure 1m85, pèse environ 77 kg. Il a les yeux bleus, les cheveux bruns et une barbe brune. Il est connu pour porter des lunettes et une grande cicatrice sur sa main droite. Omar Shafiq Amami, également connu sous le nom d'Abu Mansour al-Amriki et Farouk, est né en Alabama et a déménagé en Somalie pour rejoindre Al-Shabaab en 2006. Il a ensuite œuvré pour le recrutement de jeunes anglophones à travers ses écrits, ses chansons de rap et ses déclarations télévisées. Il a également dirigé les combattants d'Al-Shabaab sous Jihad Mostafa. Amami a 28 ans, mesure 1m80, pèse environ 73 kg. Il a les cheveux bruns et les yeux marrons. Des renseignements supplémentaires sur ces deux hommes, y compris des photos, sont disponibles sur Internet à www.rewardsforjustice.net. Pour leurs activités présumées avec Al-Shabaab, un tribunal de district des États-Unis les a accusés de complot en vue de fournir un soutien matériel à des terroristes, complot en vue de fournir un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère et de fournir un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère. Le programme Rewards for Justice offre une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars chacun pour toute information menant à la capture ou la condamnation de Mostafa ou d'Amami. Les deux hommes seraient actuellement en Somalie. Le gouvernement américain garantit que tous les rapports seront étudiés et que l'identité de tous les informateurs sera gardée confidentielle. Le cas échéant, les États-Unis sont prêts à protéger les informateurs en les réinstallant ailleurs. Si vous avez des informations sur ces deux hommes, contactez le Bureau régional de la sécurité à l'ambassade des États-Unis la plus proche ou sur www.rewardsforjustice.net ou encore composez le 254 20 712 10 99 ou des informations par email à rfj@state.gov.
C'était un message international du gouvernement des États-Unis.